Bonsoir, c'est toujours avec grand plaisir qu'on entend dans ce générique la fameuse chanson Beat Al-Shalabiya popularisée par Fayrouz. Et c'est le générique de l'émission Une heure en Palestine. On est donc sur Radio Galère en ce mercredi 30 avril, toujours avec notre super technicien Sidi qu'on remercie beaucoup. Et en plus ce soir, contrairement aux émissions précédentes que j'anime le dernier mercredi de chaque mois et qui s'intitule Des nouvelles de Palestiniens, de Palestine et de la région, eh bien, nous avons au studio une jeune femme dont vous avez déjà entendu la voix. Elle s'appelle Rislaine et elle est intervenue dans les dernières émissions de mars, de février et de janvier à propos de la façon dont on peut agir en tant que consommateur avec le boycott de certains produits. Donc bonsoir Rislaine.
Bonsoir Philippe.
Alors nous avons une autre super jeune femme aussi qui nous a rejoint depuis 3 mois à Marseille qui s'appelle Marie. Et Marie qui a co-créé le podcast Yalla je t'emmène qui peut apporter beaucoup de contenu parce que ceux qui animent cette émission, là je suis là ce soir au nom de l'association Palestine 13, en général nous ne sommes pas du tout des journalistes, nous sommes très intéressés bien sûr aux questions qui touchent à la Palestine, mais c'est vraiment super d'avoir avec nous de vrais journalistes. On attend d'ailleurs le Gazaoui Abed Enen qui est en route et qui devrait nous rejoindre, et nous avons donc en studio Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir Philippe.
Voilà. Et puis, nous sommes sur Radio Galère. Et alors en plus, on va avoir, mais cette fois au téléphone, quelqu'un qui est vraiment très important, qui est basé en Aveyron, près de Rodez. C'est le fameux Jean-Marie Dansette, que beaucoup de monde connaît sous le surnom de Djema le Philistin, puisqu'il y a maintenant plus de 25 ans. Avec sa famille, il a créé la petite entreprise France Import Palestine, ouais. Grâce à laquelle, donc depuis 25 ans, régulièrement, des containers de produits palestiniens partent d'Israël sur un cargo, arrivent à Marseille. Et là, il est actuellement aux prises avec des grosses difficultés qu'il n'a jamais rencontrées depuis 25 ans, qui sont causées par l'administration de l'État israélien et qui bloquent les produits. Alors, je pense qu'on a Djema au téléphone, c'est le cas ? Voilà, donc en plus d'avoir exceptionnellement aujourd'hui en studio Rislaine, à la technique Marie, on a en plus, mais là on l'a souvent eu dans le passé, le fameux Jean-Marie Dansette que beaucoup de gens connaissent sous le nom de Djema le Philistin, qui donc il y a maintenant plus de 25 ans a créé la petite entreprise France Import Palestine. On l'a eu souvent dans le passé pour nous parler de la façon dont les conteneurs peuvent partir d'Israël, mais là je crois que cette fois ça a été beaucoup plus difficile que d'habitude. Est-ce que tu confirmes ce que je dis, Djema? Je sais que tu en Aveyron et tu as des nouvelles, donc de cette fameuse palette qui doit partir, tu peux nous dire exactement ce qui se passe?
Ouais. Alors, bonjour aux amis de la Palestine. Voilà, ça fait, c'est en 20 ans, c'est la première fois où on est en rupture de d'huile d'olive de Palestine. Hein. C'était très compliqué sur place parce que, en Cisjordanie, il y a des blocages autour des villages, donc les paysans qui remplissent les bouteilles, les bidons, ils collent les étiquettes, font les cartons et tout, ils peuvent pas se déplacer des fois pour travailler. Ensuite, on a eu les fêtes à l'Aïd, après le Ramadan, ils travaillaient pas. Après, c'était à la fois les Pâques chrétiennes et Pâques juives, et voilà. Bon, enfin, le conteneur, là, finalement, il vient il part cette semaine, là, et on l'aura la semaine prochaine à Marseille. C'est un gros conteneur, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un conteneur de 40 pieds. 40 pieds, ça veut dire il y a 20 palettes dedans. Et dans ce conteneur, on a groupé, d'une part, l'huile d'olive qui vient de la région de Naplouse, les dattes qui viennent de Jéricho, le café, hein, puisqu'on va maintenant avoir le café Isman en disponible, qui vient de Ramallah, la bière et le vin de Taïbé, et il y aura même du chocolat, des confections de chocolat. Ouais, extraordinaire, le chocolat que j'ai goûté quand j'étais là-bas au mois de février, c'est magnifique.
Oui, alors.
Ça vaut le coup de le présenter. Ouais.
Voilà, effectivement, au mois de février, on avait pu retransmettre un compte-rendu, je dirais, du voyage que tu as fait dans tous ces villages que tu viens de citer pour rencontrer des artisans, des musiciens, etc., qui, on l'espère, seront au Festival Palestine en campagne. Ça, on va en parler dans quelques minutes. Voilà. Mais enfin, si j'ai bien compris, ça a été beaucoup plus compliqué que d'habitude, mais pour l'instant, le fameux conteneur de 30 pieds, il est toujours à Haïfa. Il n'est pas encore parti. C'est bien ça.
Voilà. C'est-à-dire que le camion avec les 20 palettes a été transporté de Taïbé, tout a été regroupé à
d'accord,
Taïbé.
D'accord.
Et c'est parti et ça a stationné pendant quelques jours à Haïfa. Et bon, pour la première fois, c'est pareil. Les Israéliens nous ont demandé plus de. C'était plus compliqué au niveau. Ils nous ont demandé des papiers, enfin différents. Enfin bref. Là, on a eu contact avec la compagnie qui nous a dit que bon, c'est ça y est, il y a le conteneur, il va être chargé dans le bateau et donc on aura à Marseille la semaine prochaine.
Ouais.
Donc ensuite, il y a l'épreuve des douanes françaises, hein,
oui.
Justement. Parce que je disais, il y a du chocolat, et alors, ils peuvent nous emmerder parce qu'ils peuvent nous demander la composition du chocolat, et voilà.
Donc, oui, je sais que dans, plus... oui, excuse-moi, je sais que dans le passé, alors qu'entre guillemets, les choses étaient beaucoup moins compliquées en Cisjordanie et en Israël, ben, tout se passait bien à la sortie, mais à l'arrivée, finalement, c'est les douanes françaises qui, pour une question de normes, d'huile ou autre, faisaient repartir les conteneurs, c'est ça, hein?
Ouais, mais bon, jusqu'à présent, on n'avait pas de problème.
D'accord.
On a eu un problème en 2006, mais
okay.
Là, non. Mais
bon.
À partir du moment, c'est un peu technique, mais c'est bien que vous sachiez quoi.
Ben oui.
Chaque produit qui est qui va rentrer en Europe doit correspondre dans la nomenclature à une référence
bien
de
sûr.
Produit avec sa composition et tout ça. Et c'est ce que fait le transitaire.
Ben oui, hein, tout
parce
à fait.
Que c'est le transitaire qui fait. Voilà. Et donc le chocolat, comme on a même des chocolats où il y a du knafé dedans. Donc knafé, la spécialité de Naplouse. Enfin bref, donc à partir de là, bah, on est deux avec Valentin, on va courir sur les routes pour essayer de rattraper le retard
okay.
Jusqu'à Strasbourg, partout quoi, voilà.
Okay. Bon écoute, on comprend très bien que depuis 25 ans, les problèmes sont très difficiles, mais ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'on te voit ou qu'on t'entend, tu as toujours un optimisme incroyable et le fait est que les produits arrivent. Donc voilà, ils vont bientôt arriver à Marseille et effectivement, depuis plusieurs semaines, que ce soit des associations qui font des événements de soutien à la Palestine ou la petite boutique, il y a bien dit à Marseille, mais on est en rupture de pas beaucoup de produits. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'avec tout le travail que tu fais et tous les intermédiaires, d'abord bien évidemment grâce aux paysans et aux agriculteurs et aux agricultrices de Cisjordanie, bon bravo à vous tous. Et puis donc non seulement ça va être utile pour le printemps qui arrive, et puis après le printemps vient l'été, hein, comme disait Pablo Neruda, quoi qu'il se passe, le printemps revient. Et alors l'été, pour ce qui nous concerne, il va y avoir donc la nouvelle édition du festival Palestine en campagne, mais cette fois elle ne va pas se passer du 16 au 18 août en Aveyron, mais à Bobigny. Donc on a déjà rendu compte du voyage que tu as fait avec Sabri Giroux et Belkacem, etc. de Bobigny. Est-ce que tu peux nous dire les dernières informations au sujet du festival ? Tout va comme tu le penses ou...
Voilà. Donc, bah, ça tombe bien. Là, j'ai un rendez-vous demain soir. Je serai à Paris justement avec les copains de Bobigny.
Okay.
J'ai déjà visité le site. Hein, ça va être beaucoup plus gros que ce qu'on faisait ici à Gages.
Oui.
J'ai vu le stade. J'ai vu toutes les, enfin, tout ce qui va autour. Enfin, l'organisation. Voilà. Je précise que c'est le 15, 16, 17 août hein, à Bobigny. Ouais, 15, 16, 17. Là, nous, de notre côté, on est en charge pour les invitations, pour que nos invités palestiniens aient leur visa.
C'est donc, ça le plus compliqué, oui, c'est ça le plus compliqué, j'imagine. Hein.
Bah, avant, oui, bah, normalement, ça se passe bien, mais bon,
oui, mais
voilà, on va voir. Hein.
Voilà, c'est, voilà.
Ça passe par le consulat, et puis pareil que maintenant... ministère de l'Intérieur a son mot à dire aussi pour les visas. Alors,
bon, oui.
On va voir. Hein.
Bon.
Mais bon,
écoute,
on est dans le soumoud, donc on avance.
Voilà, on est dans le soumoud.
Et voilà.
Écoute,
voilà.
Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps précieux au téléphone. Donc, on a bien compris que des produits arrivent bientôt. Ça va satisfaire beaucoup de gens grâce aux tournées que vous faites en camion avec le Philistin, grâce à la boutique de Marseille, et plein d'associations vont pouvoir à nouveau avoir des produits.
Et notre site internet, parce que
bien
on a
sûr.
Beaucoup de commandes sur le site internet.
Bien sûr.
www.fipsouk.fr, hein, okay. fipsouk.fr. Et okay. Voilà, quoi. Eh ben, bonne continuation,
voilà.
Les amis. Et on va libérer la Palestine un de ces jours, de toute façon, Inch'Allah. Hein, donc, on continue dans le soumoud et on y va. Hein.
Merci beaucoup, Gemma. À très bientôt. Merci.
Allez.
Bonne route.
À bientôt.
Bonne route.
Au revoir.
Voilà, donc on était avec Gemma qui se bat avec plein d'autres personnes pour faire rentrer les produits palestiniens en France et en Europe. Et on a donc ici au studio de Radio Galère, Rislen, qui a travaillé tout l'automne dernier, 5 jours sur 7, à la petite boutique Yabladi à Marseille. Rislen est par ailleurs très impliqué avec beaucoup de jeunes et de moins jeunes dans l'Union pour la Palestine à Marseille. Elle est intervenue, donc moi j'anime encore une fois la dernière émission de chaque mois. Donc elle est intervenue à la dernière mission de janvier, de février, puis de mars, à propos du boycott de certains produits. Donc bonsoir Rislen.
Bonsoir Philippe.
Alors, je sais que tu es un petit peu intimidé pour être pour la première fois à Radio Galère, mais on est ici dans des super conditions avec Sidi. Donc, je ne sais pas si tu veux d'abord dire quelque chose sur ton travail à cette fameuse boutique Yabladi depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ?
J'ai commencé en septembre dernier en tant que responsable de la boutique. Et je travaille toujours dans cette boutique.
Voilà, hein, donc jusqu'à décembre, c'était, tu l'as réussi à l'ouvrir 5 jours sur 7. Oui. Et puis, ben, parce qu'il y avait beaucoup moins de produits en stock et parce que cette boutique représente un coût important pour la gestion, jusqu'à nouvel ordre, elle est ouverte le mercredi après-midi à la place Labadier avec moi-même de 14h à 18h et avec toi de 15h à 19h. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on a beaucoup apprécié, c'est d'avoir des voix de jeunes dans cette émission. Et surtout, je trouve que ce que tu nous apprends sur les produits qu'on peut boycotter, c'est très intéressant. Tu avais parlé du boycott des dates Medjool. Dans la dernière émission de mars, tu avais parlé du boycott de Coca-Cola. Et d'ailleurs, on a de plus en plus des Palestine Cola qui sont faits par des Suédois. Et donc là, Ristlen, tu as la parole. À toi de nous dire comment, en boycottant, on peut vraiment agir en tant que simple consommateur.
Alors tout d'abord, le boycott est notre arme pacifique contre cette injustice qui se passe en ce moment. Et le boycott est très très important, ça marche. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des étiquettes concernant la provenance des denrées alimentaires. En tant que client, nous avons le droit de savoir d'où provient le produit que nous voulons acheter. Le droit de savoir la provenance du produit est protégé par la réglementation numéro 1169 du 25 octobre 2011. Elle ne doit pas risquer d'induire le consommateur en erreur, notamment sur l'origine des produits. Aussi, les denrées alimentaires en provenance des territoires occupés par Israël doivent porter un étiquetage reflétant cette origine. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes attire l'attention des opérateurs sur la communication interprétative relative à l'indication de l'origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967. Publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 12 novembre 2015, celle-ci précise notamment qu'en vertu du droit international, le plateau du Golan et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, ne font pas partie d'Israël. En conséquence, l'étiquetage des produits alimentaires afin de ne pas induire en erreur le consommateur, doit indiquer de manière précise, exacte, l'origine des produits, que leur indication soit obligatoire en vertu de la réglementation communautaire. En ce qui concerne les produits issus de Cisjordanie et du plateau du Golan, qui sont originaires des colonies de peuplement, une mention limitée à produits originaires du plateau du Golan ou produits originaires de Cisjordanie n'est pas acceptable. Bien que ces expressions désignent effectivement la zone ou le territoire au sens large dont le produit est originaire, l'omission de l'information géographique complémentaire selon laquelle le produit est issu de colonies israéliennes est susceptible d'induire le consommateur en erreur. Quant à la véritable origine du produit, dans de tels cas, il est nécessaire d'ajouter entre parenthèses l'expression « colonie israélienne » ou des termes équivalents. Ainsi, des expressions telles que « produit originaire du plateau du Golan » entre parenthèses « colonie israélienne » ou « produit originaire de Cisjordanie » entre parenthèses « colonie israélienne » peuvent être utilisées. Votre pouvoir en tant que consommateur est essentiel. Derrière chaque produit acheté, il y a une part de responsabilité et il faut le dire avec clarté. Cet argent contribue à l'achat d'armes, au maintien des systèmes d'occupation, à l'effacement d'un peuple. Ne laissons pas notre silence ni nos habitudes devenir complices de tant de souffrances. Pour savoir si le produit est à boycotter, nous avons plusieurs applications. Il y a Boycott, qui est partenaire du groupe BDS, qui classe le produit selon son degré d'implication. Ensuite, l'application Boycott X et l'application No Thanks. Voilà.
Islande, parce qu'effectivement, depuis des dizaines d'années, et a fortiori depuis le 7 octobre, beaucoup de gens se demandent comment soutenir le travail des Palestiniens, qu'ils soient artisans ou paysans. Et donc, il y a deux moyens évidents. Ben, d'abord, quand on a la possibilité d'en trouver, ben, c'est de consommer ce qu'ils produisent, que ce soit des produits alimentaires, des produits artisanaux, des livres, etc. Et lorsqu'on va faire des achats où que ce soit, y compris, bien évidemment, quand ça n'a rien à voir avec la Palestine, en tant que consommateur, en tant que citoyen, on a le devoir, quand on est dans un magasin, de s'informer d'où vient le produit, etc. Et concernant la campagne internationale, donc boycott des investissements en solidarité, c'est un réel moyen qu'a chaque citoyen de ne pas choisir telle ou telle marque de téléphone, SFR par exemple, ou telle assurance AXA, ou Carrefour, ou Puma. Ces marques que je viens de citer investissent de l'argent, non pas en Israël, mais dans des colonies, dans des territoires occupés illégalement. Et donc, on a le pouvoir de ne pas rentrer dans ces magasins ou de rentrer dans ce magasin et de s'étonner, comme l'a expliqué Rislaine, que les étiquettes ne sont pas correctes, etc. Donc, tous ces renseignements-là, on les trouve sur Internet. Et puis, de toute façon, on les trouve aussi en magasin. Donc, par exemple, ces fameuses dates Medjoul qu'on voit très souvent, quand on voit qu'il y a écrit Israël dessus, elles sont très souvent récoltées par ailleurs vertes, congelées, etc. Et quand on a la possibilité, grâce à certaines filières, comme le Philistin ou autre, d'avoir des dates récoltées mûres à Jéricho et produites par des agriculteurs et des coopératives palestinienne, eh bien sûr, c'est beaucoup mieux. Donc merci beaucoup, Rislaine.
Merci.
Voilà. Et donc, c'est l'émission Radio Galère, 81.4, Nord en Palestine. Donc, il y a plusieurs associations qui se relaient au micro. Donc, souvent, il y a des gens de boycott des investissements en solidarité. Là, je suis là au nom de l'association Palestine 13. Alors, c'est la dernière émission du mois d'avril. Bon, ça y est, les frimas d'avril passent. On va arriver à ce fameux mois de mai où on dit qu'en mai, on fait ce qu'il nous plaît. En tout cas, on peut le faire quand on est en liberté. Mais bien évidemment, il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Et donc, je voudrais parler de quelques événements qui arrivent très vite. Donc déjà, dès ce soir, ce mercredi 30 avril, à La Friche, a lieu un événement qui s'appelle les Assises du journaliste en Méditerranée. Et je pense que Marie, qui est journaliste, peut en parler mieux que moi.
Oui, ce sont trois jours où ça s'appelle les Assises méditerranéennes pour le journalisme. Et c'est trois jours où sont rassemblés énormément de journalistes. Je n'ai pas le chiffre exact en tête sur des sujets divers et variés. Mais la cérémonie de clôture mercredi 30 avril sera à La Friche justement et sera sur la question de Gaza. Et il y aura des journalistes palestiniens qui seront parmi les intervenants. Donc ça promet, je vous engage vraiment.
Voilà, donc c'est ce soir. C'est
et
ce
il faut 30... s'inscrire.
Voilà, et c'est ce 30 avril. Donc ceux qui se sont inscrits, bienvenue. En tout cas, il va y avoir dans cette clôture de ces assises du journalisme un hommage à une journaliste qui s'appelle Marine Vlahovic, qui est malheureusement décédée l'hiver dernier à Marseille. Et la famille de Marine avait amené un lot de livres qui ont appartenu à cette fantastique journaliste qui avait été déposée à la boutique à Blady, qui n'a pas pour vocation à être une médiathèque ni une bibliothèque. Et donc finalement, après consultation de beaucoup de personnes, ce lot de livres est arrivé à la très importante association Mille Babord, rue Consola, qui elle vraiment gère une belle médiathèque. Donc voilà, il va y avoir ces assises du journaliste à La Friche Belle de Mai. Et puis ensuite, on va arriver évidemment au 1er mai. Alors le 1er mai, c'est dans le monde entier la fête des travailleurs. Donc j'ai eu la chance, là, dans le cadre de la route du Zaatar, de faire une traversée aller-retour express sur le Gladiateur de la Paix, depuis le port de Cassis jusqu'au port de Calvi, où j'ai rencontré des gens qui ont constitué récemment un collectif Balagne Palestine. Donc la Balagne, c'est cette région de la Corse qui est autour de Calvi. Et depuis quelques lundis, c'est assez récent pour eux, ils manifestent régulièrement devant la sous-préfecture de Calvi. Et alors qu'il n'y a pas à Calvi des défilés du 1er mai avec des travailleurs, des syndicalistes et autres, mais ça a lieu bien évidemment à Ajaccio et à Bastia. Et donc à Calvi aussi, il va y avoir ça. Et donc de plus en plus de collectifs se sont créés. Il y a certaines associations depuis très longtemps, comme l'association France-Palestine Solidarité. Mais depuis le 7 octobre, tous les dimanches, le rendez-vous est donné à la Porte d'Aix à Marseille à 15h. Le matin, c'est sur les marches du Port-Vieux de la Ciotat pour le soutien à la cause palestinienne. À Aix-en-Provence, le samedi à 15h, etc. Et donc, bien sûr, ce 1er mai, il y aura des parties particulières pour les travailleurs palestiniens à la fête du travail. Et ensuite, on arrivera au vendredi 2 mai, 17h, en haut de la Canebière, à la très importante librairie Maupetit, qui est un espace de rencontre. On pourra retrouver Pierre Stamboul, qui est le porte-parole de l'Union juive française pour la paix, qui a écrit de nombreux livres. Et là, il présente son nouveau livre qui s'appelle « Du projet sioniste au génocide ». Pour ma part, qui ne suis jamais allé à Gaza, qui ne suis pas journaliste ni écrivain, mais qui m'intéresse beaucoup à l'histoire ancienne et actuelle de la Palestine, j'ai beaucoup apprécié le livre de Pierre Stamboul qui s'appelle « La Nakba ne sera jamais légitime » et qui permet de vraiment de comprendre comment depuis 1948, le peuple palestinien est opprimé, massacré, en dépit de tous les règlement de droit international. Voilà, et puis on va finir cette première semaine de mai avec le dimanche 4 mai, c'est le premier dimanche du mois. Donc comme pour chaque premier dimanche du mois, à la Cité des Arts de la Rue, aux Égalades, a lieu l'événement vraiment génial, un dimanche aux Égalades, parce qu'on peut visiter ce fameux très beau ruisseau qui coule là dans nos quartiers. Il y a un très beau marché de producteurs, donc j'aurai à nouveau le stand route du Zaatar, et en plus, ce dimanche 4 mai, ça va être le 80e anniversaire du Secours Populaire Français. Donc il va y avoir des milliers de personnes avec des stands, des animations, avec comme thématique la solidarité internationale. Donc plus que jamais, on a besoin de solidarité entre nous, là, les uns les autres, dans nos familles. On a besoin de solidarité envers tous ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui, au lieu de profiter de cette mer qui pourrait être pacifique, vive des enfers. Voilà, donc le dimanche 4 mai au dimanche aux Égalades. Et puis je crois qu'on a déjà beaucoup dit de choses. On a entendu la grosse voix de Gemma, on a entendu la voix de Rislaine, la voix de Marie. Et donc si c'est possible d'entendre une musique que j'apprécie beaucoup, la musique du Moyen-Orient en général, celle-ci s'appelle, je retrouve le nom, la chanteuse s'appelle Dalal Abou Amen, la chanson s'appelle Ena Flestinia, et Marie, qui comprend mieux que ça que moi, m'explique que cette chanson s'intitule « Nous sommes palestiniennes ». Donc on écoute Dalal Abou Amen. Donc on écoutait cette très belle musique de Dalal Abou Amené qui s'appelle Ena Flestinia. Et donc moi qui ne parle pas l'arabe et qui ne sait pas le lire bien sûr, c'est Marie qui m'a dit que ce titre signifie « Nous sommes palestiniennes ». Et donc on est très heureux d'entendre cette voix de femme. On parlera plus tard d'un très célèbre professeur d'université de Gaza et poète qui s'appelle Ziad Medouk, et qui, donc mon ami Chris m'a transmis un texte dans lequel il évoque la façon dont est ressenti aujourd'hui par des gens de Gaza, et en particulier des jeunes, le rôle des femmes. Et donc nous avons au micro une sacrée femme qui s'appelle Marie. Marie qui s'est installée à Marseille il y a quelques mois. Marie qui a eu la chance, contrairement à moi, de vivre à Ramallah. Elle était le 7 octobre à Tunis, mais elle y est retournée. Elle a créé cette magnifique podcast co-réalisé qui s'appelle Yalla, je t'emmène en Palestine. Et donc elle vient régulièrement nous en passer des extraits et nous dire aussi plein d'autres choses, parce que Marie et journaliste.
Bonsoir.
Donc merci d'être là, Marie, à toi.
Alors, même question qu'à chaque fois qu'on se retrouve, Philippe, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine le mois dernier? Encore une fois, beaucoup trop de choses pour qu'on ait le temps de tout aborder. Les jours passent et les nouvelles se ressemblent. Depuis qu'Israël a rompu la trêve le 18 mars dernier, donc ces 40 derniers jours, ce sont plus de 2000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été tués rien que dans la bande de Gaza. Ce sont des chiffres dont on ne mesure plus l'ampleur, alors on les ramène sinistrement à des échelles plus tangibles. 50 Gazaouis sont tués en moyenne chaque jour à Gaza. Il y a aussi ce journaliste Ahmed Mansour, brûlé vif au milieu de tentes. Ses confrères et consoeurs journalistes français se sont rassemblés lors de manifestations organisées en simultané à Strasbourg, Marseille et Paris le 16 avril dernier. Celles et ceux que vous allez entendre dans cet extrait sont des journalistes indépendants venus à la manifestation en soutien à leurs confrères et consoeurs palestiniens.
Est inédit le fait qu'on ne puisse pas y aller, on ne peut pas aller à Gaza.
Non, j'ai jamais vu ça. Ça fait, alors j'ai 55 ans, j'ai 30 ans de journalisme, je n'ai absolument jamais vu ça, y compris dans les archives.
Ce qu'il se passe à Gaza ne s'est jamais passé ailleurs. C'est la première fois dans l'histoire du journalisme que autant de journalistes, hommes et femmes, sont tués dans l'exercice de leur profession.
En discutant avec des amis palestiniens et palestiniennes journalistes, certains étaient reconnaissants de la mobilisation. D'autres se sont aussi montrés déçus qu'il eût fallu attendre aussi longtemps et atteindre un tel niveau d'atrocité pour voir des mobilisations d'autres journalistes dans le monde, alors que les journalistes palestiniens sont nos yeux et nos oreilles sur place. En Cisjordanie, la situation n'est pas mieux non plus. Les forces d'occupation israéliennes ont sévèrement battu un vieil homme dans le camp des réfugiés de Tul Karem après avoir mis le feu à sa maison. Ils ont aussi arrêté un Palestinien de la ville de Betounia et détenu ses jumeaux de 13 ans. Il y a eu des raids dans la ville de Toubas, de Naplouse, de Nahalin, de Toku, de Beitounia, dans le camp de réfugiés de Fawar, près de Hébron. Bref, la pression ne diminue pas. Quant aux négociations pour un cessez-le-feu, elles continuent au Qatar. Chacun tient ses positions et même si on a entendu parler d'un peu de progrès jeudi dernier, on en attend encore concrètement les suites. Non, la nouvelle dont mes amis palestiniens m'ont parlé, puisque je suis française, c'est cette annonce du président Macron.
On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc, dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clair pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. On se bat.
On dit ça depuis son avion sans texte sous les yeux, au déboté, entre deux visites officielles. Pourtant, ça fait l'effet d'une annonce, puisque jusqu'à présent, il disait que ce n'était pas le bon moment.
Pour ce qui est de la reconnaissance de l'État palestinien, je l'ai déjà dit, nous avons toujours défendu, y compris il y a quelques années, quand plus personne n'en parlait ou n'était là pour le défendre, je le rappelle. Parfois même dans la région. Nous avons toujours défendu les deux États comme étant la solution politique, et en particulier celle qui permettait de répondre aux droits légitimes des Palestiniens aspirant à un État. Il n'y a pas de tabou pour la France, et je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien. Mais j'ai toujours dit depuis le début, c'est ce que j'ai encore expliqué vendredi dernier à l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de la région qui sont venus avec lesquels nous avons travaillé sur l'initiative arabe, je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Je pense que face à ce que nous vivons, cette émotion que nous ressentons, parce que, comme vous, je suis bouleversé par les images que nous voyons, choqué par ce que nous voyons aujourd'hui à Rafah, Eh bien, la réponse, elle doit être politique par la résolution, par justement l'action et le cessez-le-feu immédiat.
Il faut croire que l'émotion est passée puisque ça y est, c'est le moment. Mais si vous avez bien écouté, l'annonce de la reconnaissance d'État de Palestine n'est que conditionnelle. Ça doit être un mouvement de reconnaissance réciproque. Donc la France conditionne sa reconnaissance à celle d'autres États. Macron cite clairement l'Iran, mais c'est aussi ironiquement l'Arabie Saoudite qui est visée. Ironique parce qu'elle conditionne la reconnaissance de l'État d'Israël et que c'est précisément en Arabie Saoudite et avec l'Arabie Saoudite que Macron co-présidera la conférence sur la création d'un État palestinien. Reconnaître la Palestine uniquement si les autres reconnaissent l'État d'Israël, ce sera bien pratique pour se dédouaner si la réaction des dirigeants israéliens devait être trop virulente. Alors justement, comment ont-ils réagi, les dirigeants israéliens ? Un coup de fil à Macron et des tweets en dénonçant que reconnaître l'État palestinien reviendrait à récompenser le terrorisme. Pas très étonnant, d'ailleurs ce n'est pas très étonnant non plus qu'il n'y ait pas eu de vives réactions, pas de crise diplomatique, pas de dénonciation calomnieuse dont on sait que certains dirigeants israéliens ne se privent pas d'habitude. Précisément, la mollesse de cette réaction en dit long sur le souci que cela représente pour Israël. En fait, ça ne les inquiète pas plus que ça. Déjà parce qu'ils ont le soutien indéfectible de Trump, et surtout parce que si, comme le dit Macron, reconnaître l'État palestinien, ça veut dire désarmer le Hamas et renforcer l'autorité palestinienne, eh ben ça les arrange bien, ces dirigeants israéliens, puisque l'autorité palestinienne collabore avec les autorités israéliennes. En atteste par exemple l'opération de police palestinienne dont on avait parlé la dernière fois à Jenin en décembre 2024, qui avait tué une journaliste, entre autres, et qui avait clairement préparé le terrain à l'opération israélienne toujours en cours à Jenin. Mais ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui explique aussi pourquoi l'autorité palestinienne est complètement discréditée auprès des Palestiniens et Palestiniennes. C'est donc ce qu'ils m'ont dit, que la France reconnaisse la Palestine, certes c'est très bien, c'est très tard, mais mieux vaut tard que jamais pour une nation comme la France qui défend une solution à deux États sans en reconnaître l'un des deux. Mais bon, admettons. De toute façon, qui représente les Palestiniens ? L'autorité palestinienne qui avait perdu l'élection législative en 2006 et il n'y a pas eu d'élection depuis ? Qui écoute les Palestiniens de toute façon ? Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'épisode 5 du podcast « Yalla, je t'emmène » que j'ai co-créé avec Mewen Petard pour laisser la parole aux Palestiniens et Palestiniennes, justement. L'épisode 5, je vous en parle, il s'appelle « Le lion, la folle et le souk magique » et on y fait un petit tour de la ville de Ramallah avec Jéries. Avec lui, on était d'ailleurs passé devant la mairie de Ramallah, c'était l'année dernière, au moment où l'Espagne, l'Irlande et l'Afrique du Sud avaient reconnu l'État de Palestine. Et j'avais demandé à Jéries pourquoi la mairie avait affiché des drapeaux de ces États sur son fronton. Alors il m'avait répondu ça.
On peut voir ici, maintenant, la mairie a mis le drapeau du pays qui reconnaissent la Palestine comme un pays officiel pour remercier le pays qui reconnaissent la Palestine. Parce que nous méritons d'avoir un pays indépendant et le pouvoir de décider notre destination.
Le pouvoir de décider, parce que c'est aussi cette question que pose la reconnaissance d'un État, celle du droit d'un peuple à l'autodétermination. Sauf que si vous allez voir dans nos médias en France, vous ne trouverez pas de Palestinien qui a été interrogé sur la question récemment. À part ceux qui saluaient la France et l'ambassadrice de Palestine en France qui a évidemment sauté sur l'occasion.
Nous saluons cette prise de position inaction politique. Le seul et légitime représentant du peuple palestinien, c'est l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine. Nous sommes déterminés à assumer nos responsabilités.
Une intervention éloquente, d'autant plus que jeudi dernier, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a ouvert un nouveau poste, celui de vice-président. Déjà, on note la flexibilité des ouvertures de poste à un tel niveau d'État, qui pose déjà question. Mais soit, nommer un vice-président quand on a près de 90 ans et des soucis de santé, ça revient en réalité à nommer son successeur. Bref, comme depuis longtemps, les élites des dirigeants de tous les pays s'organisent pour la suite des événements, avec tous un point commun, intervenir sans que les Palestiniens et les Palestiniennes aient leur mot à dire. Merci Philippe.
Ben merci à toi Marie, c'est très dense tout ce que tu nous expliques. Et ce qui est très important, c'est que grâce à toi, on a vraiment des sources directement de gens qui vivent là-bas, qui vivaient quand tu y étais avant le 7 octobre. Mais là, les épisodes donc du podcast « Yalla, je t'emmène », ils ont été réalisés à quel moment finalement ? Quand est-ce que tu as pu retourner enregistrer tout ça ?
J'y suis retournée l'année dernière à partir d'avril. Et là, Jéries, on était ensemble, on avait fait un tour en juin 2024 et c'est au moment où l'Irlande, l'Afrique du Sud et l'Espagne l'Espagne avait reconnu l'État de Palestine officiellement. C'est pour ça qu'il y avait ces drapeaux sur le fronton de la mairie.
C'est ça. Donc en gros, c'était 8 mois après ce fameux 7 octobre. Tu as pu y retourner. Et effectivement, ça fait des décennies que la question de la reconnaissance de cet État se pose. Il y a des pays qui l'ont reconnu depuis longtemps. Mais là, c'était déjà il y a un an que des pays comme l'Irlande, comme l'Espagne, comme l'Afrique du Sud l'ont officiellement reconnu. Ici, si je comprends bien, Macron, à sa façon, nous dit qu'il va lancer la dynamique de réfléchir à la reconnaissance, si, enfin, etc. Mais enfin, déjà, il a prononcé ces mots-là. Le fait que la République française reconnaisse l'État de Palestine. Si j'ai bien compris, c'est déjà un premier pas ou pas du tout, en fait?
À mon sens, c'est plutôt un test pour voir comment les dirigeants vont, les dirigeants israéliens notamment, et les autres dirigeants du monde entier vont réagir, voilà, notamment Trump, à ce genre d'annonce. C'est plutôt un test. Et effectivement, les réactions n'ont pas été très virulentes, comme je disais. Donc, c'est a priori, ce ne serait pas un gros engagement pour la France de reconnaître l'État de Palestine. Donc, c'est possible que ça arrive vraiment en Arabie Saoudite en juin.
Il faut que ça arrive enfin. En tout cas, merci beaucoup. Et je crois, Ryslaine, que tu souhaitais intervenir suite à ce que tu as entendu de la part de Marie. Ok. Alors, on a déjà parlé de quelques événements qui vont avoir lieu en mai. On s'est arrêté donc au dimanche 4 mai avec le dimanche aux Égalades de la Cité des Arts de la Rue. Et en mai, avec le printemps qui s'installe vraiment, revient une nouvelle édition du festival Ciné Palestine. Alors, c'est un festival très important. On est ici à la radio. Bien sûr qu'on a des moyens de communiquer très importants, la radio, les livres. Alors d'ailleurs, à l'instant, on nous rejoint au studio Abed Eden, qui lui est vraiment journaliste de Gaza. Et donc, on est très content que tu sois là, Ben. On te laisse t'installer. Et donc, je parlais en ce moment donc, de la prochaine édition du festival Ciné Palestine. Donc, on a la chance que cette équipe vraiment superbe se soit installée à Marseille il y a 4 ans maintenant. Et dans les premières années, il y avait quelques projections dans des cinémas qui sont très importants, mais avec des petites salles. Donc, c'était le cas du Vidéodrome au Cours Julien, le cas du Polygone étoilé et le cas d'autres cinémas. Et puis après, se sont mis dans la course, je dirais, le cinéma Le Gyptis à la Belle de Mai, les variétés à la Canebière. On a eu la chance aux variétés, là c'était début février, d'avoir ce fameux film documentaire extraordinaire qui s'appelle No Other Land, qu'on a pu ensuite faire projeter au plus ancien cinéma encore en activité du monde, c'est-à-dire l'Eden Théâtre à La Ciotat. Et juste après, ce documentaire a eu l'Oscar du meilleur documentaire. Voilà. Et donc cette fois, il y aura en plus le MUCEM, donc il y aura des événements fin mai au MUCEM, aux variétés de la Canebière, aux Gyptis de la Belle de Mai, aux Vidéodromes, aux Polygones étoilés. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça dans le site internet Festival Ciné Palestine Marseille. Et pour que ce festival existe, évidemment, non seulement il y a une super équipe de bénévoles, mais il faut également des moyens financiers. Et alors ça, c'est dès le mercredi 7 mai. Il va y avoir au Molotov, qui est une salle vraiment super à Marseille, près du Cours Julien, en haut de la rue d'Aubagne. Donc au Molotov, le mercredi 7 mai, à partir de 19h et jusqu'à 2h du matin, un grand concert de soutien au Festival Ciné Palestine, avec des musiques extrêmement diverses et variées. Donc, en tout cas, avant le cinéma, donc venez tous écouter des superbes musiques et rencontrer des gens superbes au Molotov le mercredi 7 mai de 19h à 2h du matin. Et donc le festival, ça sera fin mai. Ensuite, autre date très importante que je voudrais annoncer, on avait eu la chance de réussir en mai dernier 4 heures de soutien à Gaza au Théâtre Tourski. Et cette fois, ça va se passer le samedi 10 mai dans la salle municipale de Hangart du 4e arrondissement. Donc c'est 106 boulevard Françoise du Parc. Les Marseillais connaissent ce boulevard comme boulevard Sakakini. Et donc dans la salle Hangart, samedi 10 mai, à partir de 14h, il va y avoir des conférences d'un médecin urgentiste qui revient de Gaza, il va y avoir des musiques, etc. Mais cette fois, ça devient tellement compliqué d'aider financièrement des gens qui survivent encore à Gaza, que le sujet, c'est de faire une grande collecte de soutien donc financier pour des gens qui ont été évacués de Gaza, certains récemment et d'autres il y a très longtemps, et qui depuis plusieurs mois se trouvent dans des hôpitaux en Égypte, au Caire. Et d'ailleurs, l'émission du 2 avril, Une heure en Palestine, on a eu en direct depuis le Caire, grâce à deux Marie et à Régine Fiorani, des gens donc, qui sont venus témoigner de cette mission de collecte d'argent pour les soutiens des gens évacués de Gaza en Égypte. Et donc, ça se passera le 10 mai à la salle municipale Hangart. Voilà, et donc on a entendu beaucoup de jeunes femmes, on a entendu Rislaine, on a entendu cette chanteuse merveilleuse qui nous a chanté « Nous sommes palestiniennes ». On a entendu Gemma le Philistin avec son téléphone et on est heureux d'accueillir de nouveau au studio de Radio Galère Abed Eden, que j'ai eu la chance de croiser grâce à un autre Palestinien qui est dans Palestine 13 qui s'appelle Samar Saoudi. À ce propos, je voudrais rappeler que toutes les dates qu'on cite, elles sont parfaitement référencées dans le site internet assopalestine13.org. Qui publie une lettre par mail tous les vendredis, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Donc dans un premier temps, on a rencontré Abed parce que des survivants de sa famille à Rafah vivaient et vivent des moments terribles, mais maintenant Abed est là en tant que journaliste d'une part, et d'autre part il travaille depuis des mois, et je crois que ça va arriver bientôt, à l'ouverture d'un nouveau lieu à Marseille, rue Vacon, près du Vieux-Port, où on va pouvoir, à la façon d'Abed qui est cuisinier, par ailleurs, déguster ces si bonnes recettes de Palestine. Donc Abed, merci d'être là et on t'écoute.
Merci Philippe. Bonjour à vous, bonjour à vous tous. Et il m'a déjà me présenté, donc je pense que j'ai pas besoin, mais je m'appelle Abed Enen, pas Abed Eden, mais c'est bon, comme le veut Philippe. Et malheureusement, la situation à Gaza, j'aimerais bien vraiment de parler un peu de la situation de Gaza, après je parle de moi-même, parce que je pense que la priorité vraiment de rappeler aux gens que la situation à Gaza, c'est toujours un génocide avec tout le caractère nécessaire d'un génocide de l'année, peut-être avant même 1900, et pour les 50 jours jusque là, il y a rien qui rentre à Gaza, et il y a même pas de potable, il y a même pas des canettes comme avant, et il y a vraiment rien de tout, et les gens on est arrivé au niveau que le trouve même pas des chaussures, des vêtements, des médicaments. Et le basique, en fait, le base de base, il ne trouvait rien de tout là. Et comme il n'y a rien, donc qu'est-ce qu'il existe, ça elle a un prix très très cher. Par exemple, un sac de farine à 25 kilos qui ne sert même pas à 3 jours pour une famille de 5 personnes, le prix c'est 1000 euros. Vous imaginez, là, pour toucher 1000 euros, on travaille presque 20 jours. Vous voyez, mais là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, ma famille, elle essaye de faire du bain, de fabriquer du bain à partir de pâtes. Vous imaginez, je ne sais pas, en fait, j'arrive même pas d'imaginer comment elle fait, mais ils ont arrivé. Vous voyez, donc et là, la France a fait une étape très, je peux dire, très en retard. Il dit, c'est les gens à Gaza, on souffre en grande souffrance, etc., comme elle dit Macron. Mais malheureusement, la France arrive de faire sortir 110 personnes qui est très proche de l'ambassade. Je ne le rapproche pas, la vérité. Et moi, j'aimerais bien de faire sortir même ma famille de cet endroit. C'est comme l'enfer, donc je ne reproche pas aux gens. Mais si vous êtes arrivé de faire sortir 110 personnes, j'aimerais bien que vous essayiez de faire entrer des aides aux gens qui n'arrivent pas à sortir. Vous voyez, donc la situation là-bas, c'est toujours horrible. Et moi, à mon côté, j'essaie mon mieux d'aider ma famille parce que j'ai une grande famille, vraiment. J'ai 4 sœurs et 3 frères sont tous mariés avec beaucoup d'enfants. Et là, je vends Palestine Cola à Marseille. Et heureusement, et Philippe et tous les camarades essayent de m'aider à vendre. Et au même temps, j'essaie d'avancer dans mon projet de restaurant.
Avant de parler du restaurant, c'est très important parce que toi, tu es la vraie source. Tu as ta famille qui survit encore à Rafah.
Donc, à Khan Younes, parce que Rafah, c'est vraiment évacué et rasé.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ce qu'on peut dire pour résumer, c'est qu'il y a des horreurs absolument abominables qui se sont produites depuis le 7 octobre. Il y a eu, donc, Marie nous en parlait très bien, un cessez-le-feu. Enfin, il faut mieux appeler ça un cessez-le-génocide. Mais en vérité, aujourd'hui, donc, il y a des... des opérations de, voilà, de, qui sont importantes de faire sortir 100 personnes. Mais ce qui est capital de comprendre, c'est que dans ce cessez-le-feu, le génocide, non seulement le feu n'a pas cessé, mais surtout, plus rien ne rentre, plus rien ne rentre. C'est-à-dire même pas une chaussure, etc. Et donc on a bien évidemment des images de guerre du passé où on a pu, avec des historiens, retracer qu'est-ce que c'est une économie de survie absolue. Mais là, on est au-delà de tout ce qu'on a pu voir après coup. Et on le voit en direct. Et donc on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ça puisse continuer. Pourtant, ça continue. Et donc voilà, on est tellement horrifiés d'une part et tellement admiratifs de ceux et celles qui, malgré tout, arrivent à résister. Et justement, avant de te repasser la parole, Abed, parmi les gens très importants dont tu nous as expliqué que non seulement ils sont des poètes, mais ils sont aussi des professeurs d'université, on ne devrait pas aller au passé, parce que bien sûr qu'ils sont toujours professeurs, sauf qu'il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'école. Et du coup, ce poète qui s'appelle Ziad Medouk, qui a préfacé un des livres que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler, qui a été écrit et dessiné par le Corse Joman Ivutor, qui est un des piliers de Corsica Palestina, dont le titre du livre de Jean-Yves, ça s'appelle « Des mots et pas des bombes sur Gaza ». Et Ziad Medouk l'avait préfacé en septembre 2024, donc un mois avant le fameux 7 octobre. Et la dernière phrase de sa préface, c'était tout simplement, je la retrouve parce que le livre est beau, il y a des très beaux dessins, je vous le conseille. Voilà, donc ce que Ziad Medouk écrivait en septembre 2024, c'était « Espérons que les mots d'espoir et de confort de Jean-Yves arrivent avant les bombes aux enfants de Gaza. » Alors, ben, malheureusement, des bombes, il y en a eu tellement, tellement, tellement. Et donc, récemment, grâce à mon ami Chris, qui depuis des années coopère avec Ziad Medouk pour l'aider à traduire ses textes de l'arabe en d'autres langues. Et donc, ce que nous dit récemment Ziad Medouk, c'est à quel point dans cette économie de terreur, de survie, le rôle des femmes, qu'elles soient sœurs, qu'elles soient mamans, est vu de façon beaucoup plus positive par beaucoup de gens de Gaza et surtout des jeunes. Et donc, Ziad Medouk nous cite par exemple une jeune qui s'appelle Lina, qui est une ingénieure diplômée. Et je lis juste ce que dit Lina. Rina relève que de nombreuses femmes travaillent comme elle en tant que bénévoles dans les hôpitaux qui restent encore en service, dans les centres médicaux, dans les cliniques, dans les associations. Leur rôle est très important. Aujourd'hui, les femmes ont le respect et l'admiration des hommes, notamment des jeunes. Pendant les déplacements, les hommes prennent soin d'elles et de la famille, portent les bagages et les meubles. On assiste à un partage des responsabilités différents et ça, c'est nouveau. Le courage et la détermination dont font preuve les femmes est extraordinaire. Une autre femme qui s'appelle Shadia, qui a 67 ans, qui est à la fois maman et grand-mère, dit: Shadia m'a parlé de ses petits-enfants qui viennent chez elle chercher la tendresse et le réconfort après chaque attaque sanglante, après chaque bombardement. Elle aussi observe une nouvelle reconnaissance du rôle de la femme par les jeunes. Auparavant, les filles sortaient de chez elles pour aller au lycée ou à l'université, puis elles rentraient à la maison pour s'occuper du ménage et aider leur mère. C'est plus possible maintenant. Les bâtiments scolaires sont en grande partie détruits aussi. Pour ne pas rester coincées à la maison toute la journée, elles sortent, elles prennent des rôles qui n'étaient pas les leurs auparavant. Aujourd'hui, les pères font confiance à leurs filles. Elles peuvent aller au marché, au marché. Malheureusement, encore une fois, quand il l'a écrit, peut-être qu'il y avait des camions qui passaient. Pour l'instant, ben, il n'y en a plus. Ou en tout cas, très très peu. Et les produits qu'on trouve sont hors de prix. En tout cas, donc, on leur témoigne du respect à ces femmes en les laissant passer devant dans une caisse séparée. Shadia elle-même encourage ses petites filles à sortir. On voit beaucoup de jeunes filles dans les rues. On reconnaît leur implication et c'est un élément nouveau et très important. Shadia relève un autre changement important dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, l'homme aide beaucoup plus sa femme dans le ménage. Malgré la trêve, il est très dangereux de sortir des maisons après une certaine heure. L'homme passe donc plus de temps dans la maison avec sa famille. Il s'acquitte même spontanément, bien sûr, de tâches ménagères qui autrefois restaient dévolues aux femmes uniquement. Allumer le feu, faire le ménage, etc. Voilà, donc c'est ce que nous témoigne actuellement Ziad Medouk. Mais ça, on le sait, hein, toute proportion gardée, on n'a jamais connu de telles horreurs en France. Mais quand, par exemple, des grèves sont très longues, que les hommes font, ben c'est parce que les femmes prennent des nouveaux rôles qu'elles assurent un maximum. OK ? Donc maintenant, Abed, le titre de l'émission, c'est « Des nouvelles de Palestine en Palestine et nos nouvelles de Palestiniens qui sont dans la région. On en a cité beaucoup qui animent des boutiques, qui ont des restaurants, et tu travailles depuis plusieurs mois pour ouvrir un nouveau lieu, si tu peux nous en parler.
Oui, en fait, finalement, après un grand et dur travail de trouver un local, j'ai trouvé un local qui est bien aménagé à 35 gros vacants, avec les aides d'une association qui s'appelle Singa, qui suis vraiment très, très fier d'eux, qui son travail essentiel d'accompagner les étrangers en particulier afin de monter ces projets. Parce que normalement, les banques et l'association normale, elles n'accompagnent pas le réfugié. C'est simple, c'est comme ça. Je ne comprends pas notre statut juridique. Donc, à son aide et l'aide de beaucoup des amis et camarades à Marseille qui me prêtaient un bout d'argent nécessaire, et je vais ouvrir mon restaurant très bientôt, j'espère dans 20 jours, truc comme ça. Et j'aimerais bien que vous veniez manger chez moi. Et je vous promets que vous allez manger quelque chose de vraiment unique qui vous trouvez que chez moi, quelque chose de vraiment de Gaza et de Palestine.
Okay. Merci. Bah écoute, Abed, merci beaucoup. On a cité avec Rislaine d'autres lieux qui existent déjà. Ça va être un nouveau lieu où non seulement on pourra vivre joyeux de ce que savent produire des Palestiniens, je suis sûr qu'il y aura des belles musiques aussi. Et à ce propos, donc on a entendu tout à l'heure une magnifique jeune femme qui nous chantait la chanson « Nous sommes palestiniennes ». Et c'est Marie tout à l'heure qui m'a cité un rappeur dont le nom d'artiste c'est Abou Jouri. Et on va entendre de la part de ce rappeur la chanson « I wish, je voudrais ».
ضرب الحرم متخبي شريدة نركض أكبرها من نمسك عقيدة صارتنا عالباب ومحامي تبعت شاي بزروا فستق الكل يخلص شغله جاي فاش أغارة ما حد بلا محارة فش حجر ضل ولا بتعالى من هناك من عايش حد يحكي سمعني عالم ولا صوتي بتخفي راح البيت وراحوا الناس يا وجع القهر اللي انغرس حسرة بس على مين ولا مين كبير الفقد وفضوا الكاس راح البيت وراحوا الناس يا وجع القهر اللي انغرس حسرة بس على مين ولا مين كبير الفقد وفضوا الكاس من بيت لبيت انتقلنا زي ما بيقول جواتي الحد بكل حد مسؤول مش قادر اكتم لازم اكفر كل قانون بحلل دمي وحرمني حتى علبة فوق يومنا من الصبح عكر روعة ظهرك صف عبي مي بالجلن محلى زهرك لو الهكتة والطابور الطحن حظك بدها تنطح وتقاتل وتموت وتنسى قهرك فجأة غارة ما حد ملامح حارة فش حجر ضل ولا بدع حالة من هناك من عايش حد يحكي سمعني عالم ولا صوتي بتخفي راح البيت وراحوا الناس يا وجع القهر اللي انغرس حسرة بس على مين ولا مين كبير الفقد وفضوا الكاس راح البيت
Voilà, donc merci beaucoup Sidi. On écoutait donc le rappeur Abou Jouri, la chanson qui s'appelle I Wish. Et alors, ben, elle est très intéressante cette émission Une heure en Palestine, surtout quand, comme aujourd'hui, on a dans le studio Abed, on a Rislaine, mais on arrive bientôt au bout de l'heure. Et donc, je voudrais juste rappeler le samedi 10 mai au Molotov de 19h au bout de la nuit, un concert de soutien au prochain festival Ciné Palestine. Excusez-moi. Le concert de soutien au Molotov, c'est le mercredi 7 mai. Voilà. Et le samedi 10 mai au hangar, tout l'après-midi, une collecte avec la mission, avec le collectif MACPAL, Marseille, Gaza, Palestine, en soutien aux Palestiniens évacués dans des hôpitaux d'Égypte. Alors, l'émission arrive à sa fin. Donc, Christiane Merdi, merci d'avoir été là. On t'écoute.
Alors, je voudrais juste dire quelques phrases par rapport au boycott et aussi au soutien du peuple palestinien qui souffre en ce moment. Et surtout, de privilégier les commerces. Par exemple, si on veut faire un cadeau, on va aller au restaurant. De privilégier tout ce qui est palestinien. Voilà, leur donner de la force. Ils en ont besoin, surtout en ce moment. Et aussi rajouter que le boycott marche en ce moment. il y a beaucoup de pertes. Il y a Starbucks, KFC et McDonald's qui ont perdu 18 milliards voilà, de dollars. Mmh. Et en Turquie, les restaurants KFC ont tous fermé. Du coup, le boycott marche, on continue et c'est un combat sur la durée.
Ok, merci beaucoup Rislaine. Et donc, on peut te retrouver chaque vendredi après-midi de 15h à 19h à la boutique Yara Bladi. Merci beaucoup Abed. On se languit donc de l'ouverture de ton lieu. Il a déjà un nom ce lieu ou pas encore ?
Rimal, en fait, il y a deux sens.
Oui.
Et le premier, c'est la sable en général, mais c'est la sable de la plage en particulier. Mais autrement, c'est le nom du quartier Vieux Bord à Gaza, où j'ai reçu toutes mes études et j'ai travaillé déjà là-bas pour 8 ans en général. Bon. Et c'était malheureusement le premier quartier qui a été effacé, qui était détruit. Et je pense que vous connaissez tous ce quartier qui s'appelle El Rimal. Donc, c'est la cause pour laquelle j'ai donné ce bel nom.
Ok, merci beaucoup Abed et rendez-vous bientôt à la rue Vacon. Merci encore Sidi pour tout son travail de la technique. Merci Marie. Et donc, pour notre part, on se retrouve le dernier mercredi de mai. Et ça sera donc le mois de mai, entre autres le mois du Festival Ciné Palestine. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt sur Radio Galère 88.4.